Vous écoutez RTL.
Pour tous ceux qui se sont exprimés sur l'antenne d'RTL depuis le petit matin de Julien Cellier, tous ceux qui en France vivent la galère, les pieds dans la neige ou dans l'eau, un petit cadeau, tiens, pour se réchauffer.
Des petits seins de Bakeli qui s'agitent.
Ça réchauffe, non? Je ne sais pas si
la place du sexe et du soleil, c'est ça?
Voilà, petit sein de Bakélite, ou les femmes plus plantureuses. Mais nous, on va raconter l'histoire des seins S-E-I-N-S dans la curiosité. Il y aura des Amazones et on vous dira tout sur le soutien-gorge aussi.
Et tout de suite, on se souvient de tout, mais alors de tout sur RTL.
Le cerveau humain est capable de stocker des milliards de souvenirs plus que n'importe quel ordinateur.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais la mémoire est sélective. 90% des informations perçues dans une journée sont effacées.
C'est la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
La mémoire ne conserve que celles qui peuvent éventuellement être utiles.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bonjour à tous, bienvenue. Grâce à mon incroyable mémoire, je me rappelle que je m'appelle Sidonie, que je travaille avec Thomas
ça, et que je suis
sur RTL jusqu'à 15h pour votre dose quotidienne d'histoire. Vous allez bien, Thomas?
Oui, ça va très bien. Bienvenue à tous les curieux. Ici, vous le savez, on aime l'aventure, l'histoire, la nature, la science et les destins hors normes.
Bah, comme ceux des hypermnésiques célèbres. Bonjour Roland Portiche.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes réalisateur, vulgarisateur, scientifique. L'hypermnésie, la matière qui vous passionne, c'est quoi? C'est une faculté, c'est un don ou c'est une maladie?
Alors d'abord, c'est une maladie, c'est une véritable pathologie. Il y a très peu d'hypermnésiques au sens vraiment pathologique du terme dans le monde. Je crois qu'on les évalue environ une trentaine.
Ah oui, c'est
ce
peu.
Ce sont des gens qui se rappellent de chaque minute de leur vie. Et ne croyez pas que c'est un avantage. En vérité, c'est pour eux, pour beaucoup d'entre eux, c'est un véritable enfer.
Ils se souviennent de chaque minute, c'est-à-dire, mais de tout? Parce que nous, on retient qu'un pour cent de chaque journée, les gens normaux, on va dire.
Et là, leur problème, c'est qu'ils se souviennent de tout. Et ils se souviennent de tout sans y penser. C'est-à-dire que les souvenirs arrivent sans avoir été convoqués. C'est-à-dire qu'ils cumulent à la fois toute leur peine de cœur, tous leurs bons moments. Enfin, malheureusement, tout ça se presse en même temps dans leur esprit. Et ils vivent ça véritablement comme un enfer. Alors ça, ce sont les hypermnésiques, je dirais, pathologiques. Et nous, dans le livre, on a étendu le mot d'hypermnésie à tous ceux qui ont une mémoire hors norme. Par exemple, il y a des pathologies, hein, comme les autistes savants qui ont effectivement des mémoires hors normes, mais aussi la mémoire de la musique, la mémoire visuelle, ce qu'on appelle la mémoire eidétique, les calculateurs prodiges. Donc on s'est intéressé à toutes ces personnes qui ont des mémoires hors normes, et à quoi et à qui on s'intéresse en général assez peu, puisque quand on s'intéresse à la mémoire, très souvent, on pense à ceux qui en manquent de la mémoire.
Ben oui, c'est vrai que c'est surtout ça. Et souvent, on pense, depuis quelques mois ou quelques années, avec la révolution numérique, on se dit qu'on perd les uns et les autres notre mémoire. Donc c'est vrai que ceux-là qui ont une mémoire totale, c'est le titre de votre livre auquel vous faisiez allusion, Roland Portiche, publié chez Stock, ils nous fascinent. Et alors, il y a des exemples impressionnants dans l'histoire. On va commencer avec un premier cas célèbre, c'est Napoléon. Pourquoi Bonaparte? Pourquoi on dit qu'il était hyper hypermnésique, Napoléon Ier?
Alors, hypermnésique, là encore, pas au sens pathologique,
oui,
mais il
compris.
Avait quand même une mémoire tout à fait remarquable. Alors, il y avait deux éléments dans la mémoire de Napoléon. D'une part, c'était un esprit remarquablement organisé. C'était un ordinateur avant la lettre. Mmh. Il se trouve que j'avais fait un secret d'histoire sur Napoléon, et donc j'avais eu la possibilité de visiter le bureau de Napoléon, qui est aujourd'hui le bureau de Gérard Larcher, au Petit Luxembourg, et donc il a habitait juste dessus, Napoléon, il descendait un étage, il commençait à 5h du matin et il emmagasinait des informations, et il est classé comme dans un ordinateur.
Il paraît qu'il classait aussi tous ses livres dans sa bibliothèque, et quelle était sa faculté?
Oui, il avait effectivement, si vous allez à la Malmaison, vous verrez, ouais, que Napoléon avait une bibliothèque tout à fait gigantesque. Il se souvenait de chaque personne à qui il prêtait un livre.
Aïe,
il n'avait pas besoin de noter.
Hein. Il lui rendre alors.
Voilà. Oui. D'ailleurs, si ça m'aurait aidé, moi. Vous pourriez me rendre le DVD de Suits, la série américaine, ça m'arrangerait. Je ne sais plus à qui je l'ai prêté.
Napoléon, vous aurez réclamé son livre. Alors, par ailleurs, c'est vrai qu'il avait une faculté tout à fait particulière. Il avait une mémoire visuelle exceptionnelle. Une mémoire visuelle, on appelle ça aujourd'hui une mémoire eidétique, du grec eidos, qui veut dire image. Et donc, eux, une mémoire eidétique, c'est qu'ils avaient une mémoire visuelle formidable. Ils se souvenaient de chaque endroit où les troupes étaient disposées.
Et même des visages des grognards, j'ai lu ça dans votre livre. C'est incroyable. C'est la légende qui dit ça un petit peu.
La légende qui dit ça. Mais effectivement, ils se souvenaient de beaucoup de visages. Et ça, c'est toujours très gratifiant d'ailleurs.
Autre mémoire phénoménale de l'histoire, Mozart. Alors lui, c'était pas la vue, mais l'oreille qui était absolument exceptionnelle. À tout de suite sur RTL.
Je veux savoir ce qui lui est arrivé.
Je pense qu'il a disjoncté.
Mais il n'a plus de mémoire.
RTL.
Tout ce que j'ai de mon passé remonte à 15 jours.
Amnésique ?
Oui.
Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant ? C'est la mémoire, bien sûr.
Il est incontrôlable. La décision s'impose d'elle-même.
La curiosité est un vilain défaut.
D'après le célèbre best-seller, La mémoire dans la peau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Extrait du film La mémoire dans la peau avec une grosse voix qui fait peur. Extrait du best-seller. On se passionne pour le destin de ces hypermnésiques, des gens qui se souviennent de tout. Pour certains, c'est une maladie, un fardeau.
Notre invité a oublié d'éteindre son téléphone.
Ben, ça, pour une fois que c'est pas
grave,
moi.
Roland.
Pour une fois que c'est pas
c'est
moi
la vie,
que ça
c'est
arrive.
Du direct.
En tout cas, Roland Portiche, on est très heureux de vous avoir parce qu'on découvre ces destins extraordinaires. Alors moi, j'avais en tête une idée qui est peut-être une idée reçue, vous allez nous le dire, que les hommes politiques sont souvent hypermnésiques. Ils ont cette capacité, je pense à Nicolas Sarkozy, François Hollande, à se souvenir de beaucoup de détails, des livres qu'ils ont lus, des gens qu'ils ont croisés. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Oui, c'est vrai. Il est très difficile d'être un homme politique qui a du succès sans avoir une très bonne mémoire. Je pense qu'il y a une sélection naturelle qui fait que quand vous n'avez pas une très bonne mémoire, regardez, enfin... tout le monde se souvient du débat entre Marine Le Pen et Macron.
Oui,
et vous aviez
Macron,
d'un côté...
Il n'y a pas de note, Macron, non ?
Et voilà, ouais. Macron était impérial, il y avait une toute petite fiche, il y avait quatre lignes, ouais. Et Marine Le Pen avait une véritable bibliothèque dans laquelle elle fouillait. Il y a un problème.
C'est qui le roi des politiques en matière d'hypermnésie, de mémoire extraordinaire ?
Il y a deux rois. Oui. Il y a deux rois d'après ce que tout le monde dit. Hein. Il y a un roi, alors de la mémoire, je dirais des chiffres, c'est Giscard d'Estaing. Mmh. Lui, alors... tous ceux que nous avons rencontrés nous disent qu'il était ébouriffant. Il est encore, hein, peut-être, il est toujours vivant.
Et il y en a un autre qui est plus surprenant.
Il y en a un autre qui est plus surprenant, qui est Jean-Claude Gaudin.
Le maire de Marseille.
Jean-Claude Gaudin, c'est pas quelqu'un qui se souviendra de textes très, très complexes. C'est quelqu'un qui a une mémoire des visages qui est tout à fait importante. Et vous savez, pour un homme politique, avoir une mémoire des visages, c'est très important. Parce
pour la popularité, c'est mieux.
Ben oui. Bien sûr. Quand vous êtes dans la rue et que vous reconnaissez quelqu'un, mais ce type-là va voter pour vous jusqu'à la fin de sa vie.
Il paraît que François Hollande a une mémoire sensorielle. C'est quoi la mémoire sensorielle ?
Ben, la mémoire sensorielle, c'est un peu c'est un peu ça. C'est la mémoire des visages, c'est la mémoire de certains états.
Ah, je crois que c'est la mémoire des émotions, des sentiments.
La mémoire, ouais, des émotions. Oui. Je ne peux pas trop vous en parler de Hollande parce qu'on ne l'a pas rencontré.
Alors du coup, je vous interromps, on va parler de Mozart. Parce que Mozart...
Et vous ne l'avez pas rencontré non plus.
Non, mais...
J'aurais bien aimé.
Merci, Denis. Un génie évidemment reconnu, qui nous fait vibrer à chaque fois qu'on entend ses œuvres à l'opéra. Mozart, il avait quelle hyper-mémoire ?
Ben, il avait ce qu'on appelle l'oreille absolue.
Oui.
C'est-à-dire que c'est la possibilité de reconnaître une note comme on reconnaît une couleur, sans aucune référence. Parce que vous savez, quand un musicien reconnaît une note, il fait quand même un petit travail avec sa mémoire qui fait que, bon, ben, il reconnaît si c'est un do ou un fa, etc. Mmh. Là, les gens qui ont l'oreille absolue, ce sont des gens qui reconnaissent, qui ont une sorte d'instinct de la musique. Alors, cet instinct de la musique lui a permis de faire un coup extraordinaire quand il avait 14 ans.
Racontez-nous.
Vous savez, il existait...
On est le 11 avril 1770, voilà. C'est ça, au Palais du Vatican. Qu'est-ce
voilà,
qui se passe ?
Voilà, c'est ça. Et il y a donc un morceau de musique de Allegri, je ne me rappelle
plus. C'est Miserere.
Le Miserere de Allegri, voilà. Qui était, il était interdit de jouer ailleurs qu'au Vatican. Donc il était interdit de le transcrire, etc. Et Mozart, aidé sans doute par son père, décide de faire un coup, parce qu'il avait besoin de se faire connaître. Comme il avait cette mémoire, mémoire formidable de la musique, bah, il décide de à la simple l'audition du Miserere d'Allegri, de le retranscrire le soir même.
Donc il a la messe, Mozart, il écoute la musique et le soir, il écrit sur les portées.
C'est pas une symphonie. Hein. C'est pas une symphonie. Ouais. Ça dure 14 à 15 minutes. Il y a des éléments quand même assez répétitifs. Mais enfin, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir le soir même retranscrire le Miserere d'Allegri. Alors, il est retourné une deuxième fois pour corriger quelques erreurs. Et alors, après, évidemment, le père Léopold s'est chargé de faire savoir que le fils avait retranscrit le Miserere d'Allegri.
Et c'est arrivé jusqu'à nous.
Et voilà, joli coup de pub pour lancer la carrière du jeune Mozart. Dans un instant, un autre hypermnésique un peu particulier. Rien que de prononcer son nom, ça me donne envie de goûter ces gâteaux merveilleux et ces macarons. C'est Pierre Hermé.
Curiosité est un vilain défaut.
On est tous capables, il faut juste avoir les bonnes techniques et s'entraîner.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
RTL.
L'idée, c'est toujours de connecter quelque chose qui est inconnu à quelque chose de connu. Par exemple, il y a un mot qui s'appelle le pylore. C'est une partie de l'estomac. Et on peut imaginer, si on a du mal à le mémoriser, une pie qui vole de l'or.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue dans le cerveau de ces humains qui ont une mémoire phénoménale et on découvre que nous aussi on peut travailler et améliorer notre mémoire avec le réalisateur Roland Portige qui en va parler d'un drôle de personnage, un personnage très talentueux, c'est un grand pâtissier français, Pierre Hermé, lui il a une mémoire, la mémoire phénoménale des saveurs. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ?
D'abord, il est considéré donc, non seulement comme le meilleur pâtissier français, mais je crois qu'il a été classé comme le meilleur pâtissier du monde. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'il a ? Lui vous dira qu'il a rien de particulier, qu'il a surtout travaillé. En vérité, tous ceux qui sont, que ce soit aussi bien les nez du parfum que les gens qui ont la mémoire des saveurs, ont quand même quelque chose d'un peu particulier par rapport...
C'est-à-dire que Pierre Hermé a retenu, je sais pas, 2000, 3000 saveurs, qu'il sait les associer ?
Alors ça, ça concerne surtout les nez du parfum qui ont... mais vous savez, le goût et les odeurs, ce sont des choses qui sont parfaitement liées. Alors par exemple, les nez du parfum pourront effectivement vous dire qu'ils ont mémorisé 3000 odeurs.
Oui, comme le nez de Guerlain, Thierry Vassor, qu'on avait d'ailleurs rencontré dans La Curiosité. Mais alors Pierre Hermé, c'est quoi la mémoire des saveurs et du goût ? Ça veut dire quoi ?
Eh bien, il a effectivement mémorisé un certain nombre de saveurs qui pour lui représente à chaque fois des émotions. Les gens qui ont une mémoire importante sur le plan des odeurs et des saveurs, ce sont des gens qui ont développé une mémoire émotionnelle très, très fine. Et l'intérêt pour eux, et c'est ce que nous raconte Pierre Hermé, c'est que pour eux, ça permet de libérer leur créativité. À partir du moment où ils ont cette bibliothèque de saveurs en tête, à partir de ce moment-là, ils peuvent se laisser aller à mélanger des saveurs, comme par exemple l'idée de faire quelque chose qui soit à la fois avec du safran et de la vanille, et ça libère sa créativité.
Arrêtez, vous me donnez faim. Roland Portige, on peut peut-être donner quelques conseils à nos auditeurs, parce qu'on cherche tous à travailler notre mémoire, à l'améliorer. On écoutait Supertramp à l'instant, Dreamer, ça a à voir avec le sommeil, la mémoire.
Voilà, alors ça, il y a une chose dont aujourd'hui on est absolument certain, c'est que le sommeil développe, c'est plus que simplement le fait qu'on se repose, il développe un milieu neurochimique qui est très favorable au travail de tri, qui est indispensable pour la mémoire. Ce travail de tri, il se fait quand vous dormez, et le milieu neurochimique du sommeil est un milieu qui est très favorable à ça.
Est-ce qu'il peut se faire à d'autres moments de la journée ?
Il peut se faire aussi à l'état éveillé. Ça, c'est une découverte récente, c'est ce qu'on appelle le réseau mode par défaut. C'est une découverte récente, c'est-à-dire que, en gros, ça peut se faire quand on est dans la lune, quand on rêvasse. Vous savez, quand vous voyez votre adolescent en train de rêvasser, vous avez plutôt envie de le réveiller. Mais il ne faut surtout pas le réveiller, parce que c'est dans ces moments-là, qui sont un petit peu analogues au moment du sommeil, que se développe là encore cette faculté de tri qui est propre à la mémoire et qui permet en effet de développer une mémoire de très bonne qualité.
Et tout ça, Roland Portige, je vous le racontais dans Mémoire Totale paru chez Stock. Pour avoir une formidable mémoire, il faut aussi, apprendre à oublier. Bon, c'est facile dire, on fait comment ? Réponse tout de suite sur RTL.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Les pouvoirs extraordinaires de la mémoire sont dans la curiosité. Tiens, une dernière question pour vous, Roland Portige. Pour avoir une bonne mémoire, il faut aussi apprendre à oublier. Mais est-ce qu'il y a des exercices, parce que c'est facile à dire, oublier, comment on force son cerveau à ne plus penser et à vider le disque dur?
Alors d'abord, il y a la solution qu'avaient trouvé les hypermnésiques. Il y a un hypermnésique célèbre qui s'appelait Cherechevski. Alors lui, il n'arrivait pas à oublier. Son grand problème, c'était justement d'oublier. Alors il prenait des souvenirs, il les inscrivait sur un bout de papier et ensuite il les brûlait. Et il croyait qu'avec ça, il arriverait à oublier.
En mode marabout.
Et voilà, mais il n'y arrivait pas évidemment. Non, la meilleure manière d'oublier, c'est d'oublier de manière active. C'est-à-dire qu'il faut sculpter le souvenir. Et sculpter le souvenir, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on retient et des choses qu'on ne retient pas. La pire des choses, si vous voulez, évidemment, il y a l'oubli de l'amnésie. Ça, c'est un oubli totalement passif. Mais l'oubli actif, c'est ça. Et la pire des choses... Alors, aujourd'hui, on est menacé par deux menaces qui sont un peu opposées. C'est d'une part ce que j'appellerais l'amnésie digitale. C'est-à-dire que faire tellement confiance
aux
à
écrans,
nos petits appareils. Mmh. Et oui, c'est que... Simplement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tout ce qui passe sur l'appareil sort de notre esprit. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire que
donc ça, c'est le premier, le deuxième, juste
et le
pour
deuxième,
terminer.
C'est l'hypermnésie digitale, justement. Mmh. C'est le jour où, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est le jour où on aura des implants cérébraux qui nous permettront d'être en contact avec le
on
web.
On n'oubliera plus
cette
jamais
fois-ci,
rien.
On sera, là encore, comme les hypermnésiques, menacés par une mémoire surabondante. Mais dans les deux cas, on travaille pas assez. La vérité, c'est de mettre en relation le nouveau avec l'ancien, et c'est ce que j'appelle une utilisation dynamique de la mémoire.
Rangez voilà. Vos écrans, écoutez la radio, lisez.
Apprenez des poèmes, apprenez les paroles de vos chansons préférées.
Exactement, faites de la musique. Merci beaucoup Roland Portiche, Mémoire Totale, c'est aux éditions Stock.
Vous écoutez RTL.